actifs, s'efforcèrent de parcourir chaque jour autant de lieues que le leur permettait qui ses jambes et qui leur monture. Ainsi, lors de ces six longues journées, nous voyons Alice passer aux abords des villes de Mazamet, puis Lorins, Lombez et Liélan, sans jamais y entrer de peur d'être retrouvée par le prévôt, dont elle sait qu'il la suit de près. La jeune fille, revigorée par son séjour auprès des bergers, fait preuve d'une belle ingéniosité pour se nourrir ici de fruits, ici de plantes, là d'un petit animal. Et si cette marche forcée l'épuise, elle ne se décourage point, tout animée qu'elle est à l'idée de tenir sa promesse. Comme le printemps se présente déjà, les nuits qu'elle passe sous la voûte étoilée sont moins dures que celles d'avant. Et s'il lui arrive le soir de songer avec mélancolie à ses amis bergers, qui déjà lui manquent, son âme trouve quelque repos en sculptant avec les outils de Luc des bouts de bois qu'elle ramasse. Et quand en chemin la fatigue la frappe, ou les vivres viennent à manquer, elle se nourrit des paysages qu'elle traverse, tout plein de splendeur, de cette terre gorgée de soleil et des ruisseaux qui lui font des veines bleues. Et son regard se perd alors vers les sommets des Pyrénées, qui comme elle s'étendent vers l'ouest, de vallées en vallées, semblent marcher vers l'océan comme si rien ne pouvait les arrêter. Et de fait, l'inébranlable détermination de notre jeune Occitane vaut bien celle de cette chaîne de fières montagnes. Plus au nord, c'est à cheval que l'on voit Andreas et Robin descendre le beau pays de France. Et puisque se dirigeant vers Saintes pour y trouver Denis de Tourville, ils vont de Blois à Tours, de Tours à Châtellerault, et à Poitiers et à Mel, suivant peu ou prou la route de Compostelle. Ce sont des forêts, des champs et des vignes qu'ils traversent, obligeant leur pauvre cheval à maintenir un rythme effréné, poursuivis qu'ils sont eux aussi par un homme qui les veut morts. Et c'est à quelques lieues de Mel, comme nous l'avons dit, que nous les retrouvons au soir du 21 mars, qui est la porte du printemps, cherchant une clairière pour y passer la nuit, dans ces bois de légende où l'on raconte que jaillit de la fontaine de soif une eau belle et pure, figure de l'amour et nourriture de l'âme. Quand ils trouvèrent un endroit qui leur convenait, comme chaque soir, ils s'affairèrent chacun de leur côté, se partageant les tâches avec l'habitude de deux vieux compagnons de route. L'apprenti, qui avait déjà bien guéri de ses atroces tortures, partit avec sa fronde chercher quelque animal, pendant que son maître allumait un feu, lequel ne devait pas être trop grand pour ne point les faire repérer, mais tout de même assez pour y faire cuire leur repas. La nuit était tombée depuis longtemps quand, assis sur un tronc mort, ils soupèrent ensemble d'un lièvre bien gras. Robin en avait chassé deux. Ils en auraient encore pour le lendemain.
« Connais-tu l'histoire de Mélusine, Robin ?»«
Non, maître. »
Andreas secoua la tête. « Mais que connais-tu, bon sang ?»
« Eh bien, maître, je suis votre apprenti, partant, je connais tout ce que vous voulez bien m'apprendre. »«
À l'évidence, cela ne suffit pas. Crois-tu vraiment qu'un homme complet ne puisse être que science et pharmacie ?» Robin soupira.
« Je vous en prie, maître, contez-moi l'histoire de Mélusine. »«
Sans doute, je vais te la conter. Car vois-tu, jeune ignorant, les légendes peuvent parfois nous instruire tout autant que la science, or justement... » Nous nous trouvons ce soir dans la forêt même où se passe l'histoire de la dite Mélusine.
Si vous ne commencez pas tout de suite, j'ai bien peur de m'endormir avant la fin, maître.
Tais-toi donc. Andreas, se redressant sur le tronc, prit l'allure noble du grand conteur, tandis que son apprenti s'allongeait en croisant les bras derrière la tête, prêt à écouter. Les craquements du feu et sa lumière dorée donnaient à la scène une solennité qui se prêtait idéalement au discours. Cette légende remonte au temps où régnait sur Poitiers un comte qui allait du nom d'Emery et dont nous pourrions parler longuement.
« Cela ne sera pas nécessaire, maître !»
le coupa Robin, sarcastique, qui se préparait déjà à un récit fort long. « Soit, quand le temps de la chasse aux sangliers fut venu, le comte se partit de la ville et avec lui grande foison de barons et de chevaliers. » Au nombre desquels était son neveu Raymondin, monté sur un grand coursier, l'épée sainte et le pieu sur le col. Bientôt, dans la forêt même où nous nous trouvons ce soir, donc tous ensemble, ils discernèrent un animal, qui était fier et orgueilleux, et qui dévora plusieurs lévriers avant que de prendre son cours parmi la dite forêt, car il était fort échauffé. On commença à le suivre,